Merci d'écouter Radio Kapi. C'est l'heure de vous informer.
Radio Kapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voici d'abord les titres de ce journal. En Ituri, suspension immédiate des activités sportives et de l'interdiction des veillées mortuaires. C'est deux des mesures prises par le gouverneur des provinces pour arrêter la propagation de la maladie à virus Ebola qui sévit dans la province. Le gouvernement de la République réaffirme sa détermination à promouvoir une économie axée sur la transformation locale, l'investissement productif, la compétitivité régionale et la création des valeurs au bénéfice des populations congolaises. Déclaration jeudi à Kolwezi par les VPM Mukoko Samba à l'ouverture de la 7e édition du Katanga Business Meeting. L'invité de ce journal, c'est le professeur Félicien Kabamba. Il revient sur les enjeux, défis et perspectives des élections prévues en 2028 en République démocratique du Congo. Ce thème a fait l'objet d'un séminaire qui s'est clôturé mercredi dernier à Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio de la paix. En Ituri, le gouverneur des provinces a pris vendredi une série de mesures pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola sur toute l'étendue des zones affectées par cette épidémie. Il s'agit entre autres de la suspension immédiate des activités sportives et de l'interdiction des veillées mortuaires. Martial Kizabiamungu pour plus de détails.
Dans cette circulaire, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Louboin Kanchama, ordonne la suspension immédiate du championnat de l'entente de football de l'Ituri, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, ainsi que l'interdiction des veillées mortuaires sur toute l'étendue des zones de santé d'Ebounia, Rompara, Mungwalu et Nyakoundé, où sévit l'épidémie d'Ebola. Par ailleurs, tout enterrement devra désormais se faire par des équipes de riposte dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur. Autre mesure prise par l'autorité provinciale, les transports des cadavres sur des motos, des véhicules privés ou des transports en commun est strictement interdit. Une prérogative réservée aux seules ambulances des équipes de riposte. Enfin, les transferts partiels ou total d'un cadavre d'Ebola d'une entité à une autre est également interdit. Tout en insistant sur le respect des mesures barrières, le gouverneur Louboya en appelle à une prise de conscience collective face à la gravité de la situation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les coordinations de la société civile des villes de Beni, Butembo et Goma, ainsi que des territoires de Beni et Lubero, appellent les autorités provinciales et nationales à déployer en urgence des moyens pour la riposte et la prévention contre l'épidémie d'Ebola. Dans une déclaration conjointe rendue publique jeudi à Beni, ces structures citoyennes exhortent également la population à éviter la désinformation et regrette l'absence des dispositifs de prévention et des prises en charge de plusieurs entités du Grand Nord Kivu. Écoutons un extrait de cette déclaration lue par Richard Kirimba, vice-président de la société civile du territoire de Beni. Un
comme
extrait
des
choisi
cas
par
sont déjà signalés en province du Nord Kivu à provenance de l'Ituri. Comme des cas sont déjà signalés en province du Nord Kivu à provenance de l'Ituri, les entités de Beni, Butembo, Lubero et Goma sont largement exposées, surtout connaissant des trafics réguliers rapide et permanent avec Goma, entre Goma, Butembo, Beni et avec l'Ituri, voire avec l'Ouganda. Il est regrettable de constater que, malgré ce contexte de crise et d'urgence, jusqu'à cette date du 22 mai 2026, il n'y a ni dispositif de prise en charge, ni dispositif de prévention dans les lieux publics du Grand Nord Kivu. Curieusement, cela s'observe même dans les structures sanitaires. La société civile déplore également le retard dans la sortie des résultats pour des échantillons déjà prélevés, alors que parmi les cas suspects, il y a déjà des décès au Grand Nord Kivu. Cette situation met en danger toute la population en général et en particulier les prestataires de santé.
À Goma, justement, les M23 viennent de suspendre à partir de ces samedis tout mouvement de population entre le nord et le sud de la province. Les rebelles du M23 indiquent que ce sont des mesures pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola. Après la fermeture des frontières par le Rwanda et l'Ouganda, cet axe routier restait le tout dernier pour voyager afin de relier les deux bouts de la province du Nord Kivu. Et cela, le mauvais état de cet axe routier et le risque d'embuscade. Dès aujourd'hui, les habitants se retrouvent dans l'impossibilité de quitter la ville. Les points sur cette situation avec vous, Jean-Gandou Kabongo.
Officiellement, le M23 justifie cette fermeture par l'urgence sanitaire. Il faut à tout prix stopper la propagation du virus Ebola. Le trafic des marchandises, lui, reste autorisé, mais sous conditions strictes. Désormais, seuls le chauffeur et son convoyeur ont le droit de monter à bord des camions des marchandises. Pourtant, entre le nord de la province, sous contrôle gouvernemental, et les sud occupés par le M23, les mouvements de la population sont toujours intenses. Un habitant note que cette coupure vient frapper aussi les secteurs de la banque. Les banques de Goma sont fermées depuis les débuts de la crise en janvier 2025. Pour faire tourner l'économie locale, de nombreux habitants et opérateurs économiques n'avaient qu'une solution, rouler jusqu'à Beni pour y récupérer de l'argent liquide ou traverser la frontière. C'est ce cash qui alimentait ensuite les points de retrait des mobile money de la ville. Aujourd'hui, ce circuit de survie est coupé. Dans les rues de Goma, personne ne sait comment l'économie pourra continuer de tourner. Un analyste local demande aux autorités de Kinshasa et à celles de facto qui sont à Goma, de trouver d'urgence les voies d'une riposte sanitaire conjointe, car, rappelle-t-il, la santé et l'éducation sont apolitiques et doivent passer avant les conflits. Pour l'instant, les habitants de Goma espèrent que l'expérience des précédentes épidémies permettra d'agir vite et bien pour éradiquer le virus.
Merci beaucoup, Jean-Gandou Kabongo. Quittons ensemble l'Est de la République pour venir à l'Ouest, plus précisément au Congo central. Le médecin directeur de la zone des santé de Boko Kivulu plaide pour la construction des latrines dans l'aire de santé des Kazikolo située dans le secteur de Boko. Dans ce village, la majorité des habitants continuent de déféquer à l'air libre ou dans des cours d'eau également utilisés pour les besoins domestiques. Selon lui, cette situation favorise la propagation du choléra, une maladie qui a déjà causé la mort de 8 personnes, dont les deux derniers décès ont été enregistrés la semaine dernière. On écoute à ce sujet le docteur Cosinus Lema au micro d'Élise Kavira.
On a envoyé les superviseurs chargés de eau, hygiène, assainissement et l'animateur communautaire de la zone qui sont descendus dans le village actuellement touché. Et on a aussi apporté quelques intrants. Ce qui est vrai, tout ce village-là, la contrée, a des problèmes de latrines. La santé vient sensibiliser, mais la loi doit venir frapper. Ce n'est pas nous qui allons sanctionner. C'est comme ça qu'on avait dit au chef du secteur, il est souhaitable que, avec les services de sécurité, qu'ils montrent une stratégie. Là où nous partons sensibiliser, il faudrait qu'il y ait des actions correctrices. Mais là où cela avait commencé, quand on aille à sensibiliser, la population qui avait vu les décès, de ce côté-là, la population s'adapte déjà à notre message. Maintenant, là où ça a commencé, maintenant récemment, là où il y a eu des décès, c'est hier que nous sommes allés sensibiliser. Et certainement aussi, il y aura l'impact. Puisqu'au cas contraire, ils vont fuir les villages.
Économie à présent. Le gouvernement de la République réaffirme sa détermination à promouvoir une économie axée sur la transformation locale, l'investissement productif, la compétitivité régionale et la création des valeurs au bénéfice des populations congolaises. Déclaration faite ce jeudi à Kolwezi par le vice-premier ministre et ministre de l'économie à l'ouverture de la 7e édition du Katanga Business Meeting, un forum qui réunit les acteurs du secteur minier. Pour Daniel Mukokosa, la RDC ne veut plus être seulement un espace d'extraction, mais aspire à devenir un pôle de transformation, d'industrialisation, d'innovation et de création d'emplois. On l'écoute dans cet extrait choisi par Christian Makasinga.
Il y a une semaine, il s'est tenu à Madrid le congrès mondial du cobalt, organisé par le Cobalt Institute, du 12 au 13 mai 2026. Au moment où la République démocratique du Congo, qui détient, qui assure près de 70% de l'offre mondiale du cobalt, impose de plus en plus sa nouvelle doctrine cobaltifère, il est important que Kolwezi, devienne l'épicentre des discussions au niveau mondial de ces minerais critiques. Notre pays ne veut pas seulement être un espace d'extraction, il veut devenir progressivement un espace de transformation, d'industrialisation, d'innovation et de création d'emplois.
Daniel Mukoko Samba renseigne que la RDC assure près de 70% de l'offre mondiale de cobalt. Il plaide en faveur d'une accélération de la transformation locale des ressources stratégiques, du développement progressif d'activités industrielles à forte valeur ajoutée, du renforcement des infrastructures énergétiques et logistiques, de l'intégration régionale ainsi que de la consolidation des partenariats économiques équilibrés et durables. Sur la rivière Lubilanji, à Mujimai, un phénomène attire depuis la semaine dernière l'attention des ménages. L'apparition en grande quantité des petits frétins. Ces petits poissons pêchés à main nue ou à l'aide de petites nasses artisanales sont rapidement devenus un produit phare sur les marchés ambulants de fortune dans plusieurs quartiers de l'est des communes de la Mouya et d'Ibindi. Une aubaine pour les familles, mais aussi un sujet d'intérêt pour les nutritionnistes qui y voient une source accessible de protéines. Esther Ndalafina pour le reportage.
Depuis la semaine dernière, un phénomène inhabituel anime les quartiers de l'est de Mbujimai sur les rives de la Lubilanji. Des sardines, localement appelées Nkoulou, apparaissent en grande quantité. Une manne inattendue qui attire chaque matin des dizaines de femmes venues s'approvisionner. Monique Kanjina est vendeuse de ces sardines.
Nous achetons ça à Boko Mugumba.
Le prix défie toute concurrence. 1000 francs congolais le tas. Joseph Kabomo Kalanga affirme que c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les familles frappées par la flambée des prix des poissons.
Les goûts sont bons, même avec les petits billets. On peut préparer quelque chose pour les enfants.
Dans les quartiers périphériques, les recettes se diversifient. Oui. Frétins frits, bouillis, séchés. Selon Georges Sabamalaba, cette créativité culinaire redonne le sourire à de nombreux ménages.
Le Mkoulou là-bas, ça a un bon goût, à les manger avec des légumes, des foufous, c'est très bon aussi.
Mais au-delà de l'aspect économique, Ezekiel Mbaya, coordonnateur du programme national de nutrition Pronanut, salue une source accessible de protéines.
Les petits poissons sont vraiment riches en protéines, c'est un aliment nécessaire pour la consommation.
En attendant, les habitants savourent pleinement cette opportunité venue de la rivière. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À Kinshasa, marchés et rues offrent un véritable spectacle de couleurs et de saveurs. Mangue, papaye, orange, pastèque, citron et banane attirent les passants. Mais derrière cette abondance, les fruits peinent encore à s'imposer dans l'alimentation quotidienne. Entre habitudes culinaires et contraintes économiques, leur consommation reste contrastée. Certains les adoptent peu à peu, d'autres les réservent à des moments occasionnels. Reportage avec Sephora Mpaka.
À Kinshasa, la consommation de fruits demeure davantage une pratique occasionnelle et souvent saisonnière qu'une véritable habitude alimentaire ancrée dans le quotidien. Plusieurs personnes interrogées reconnaissent ne consommer de fruits que très rarement. Un jeune quinois témoigne.
Je consomme le fruit à compter de doigts comme l'orange et la mandarine. Mais l'ananas et les autres, non. Depuis mon enfance, je ne les ai jamais goûtés et je n'ai jamais eu l'envie d'en manger.
À l'inverse, certaines expériences de vie amènent à une prise de conscience. Une dame rencontrée au marché Gambela explique l'évolution de ses habitudes alimentaires après son hospitalisation.
Au départ, je négligeais les fruits et j'ai préféré boire du jus. Mais après ma maladie, on m'a diagnostiqué une diminution du calcium. Depuis, j'intègre progressivement le fruit dans mon alimentation.
Pour le nutritionniste Credo Maeki, la consommation régulière et variée de fruits est essentielle. Chaque fruit apporte des nutriments spécifiques et complémentaires.
Il faut varier les fruits. Pourquoi? Parce que chaque fruit apporte des bienfaits différents. La banane apporte de l'énergie. L'orange apporte de la vitamine C. La papaye aide à la digestion et la pastèque hydrate les corps.
Malgré certaines difficultés d'accès ou d'approvisionnement, les spécialistes insistent sur la nécessité d'intégrer le fruit dans l'alimentation quotidienne afin de préserver la santé et prévenir de nombreuses maladies.
À Kisangani, le centre-ville étouffe. La circulation et le stationnement de gros véhicules ainsi que de remorques en provenance de l'est du pays sur les principales artères inquiètent de plus en plus la population. Sur des chaussées déjà fortement rétrécies, s'effrayer un chemin est devenu un exercice à la fois périlleux et difficile. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Ces engins sont désormais visibles partout, au parking des poissonneries, chez Beltesco, au rond-point de l'Assemblée provinciale ou encore vers l'Alliance franco-congolaise. Un encombrement qui exaspère les habitants de la ville.
Ces remorques, lorsqu'elles circulent librement sur la ville, elles sont cause d'accidents routiers, des accidents et même des embouteillages.
Les conducteurs de mototaxis sont les premiers impactés au quotidien. Écoutez ces témoignages des deux d'entre eux.
Non, normalement, pendant la journée, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a trop d'embouteillages, les routes sont trop petites.
Face à la grogne populaire, les chauffeurs de ces poids lourds se défendent. Pour eux, cette situation ne dépend nullement de leur volonté, faute d'alternatives viables pour décharger leurs marchandises.
Personnellement, je pense que ça, ce n'est pas de notre faute, vu que ce sont les responsables de la province qui peuvent nous montrer où stationner nos véhicules, et nous n'allons plus nous voir stationner les véhicules dans la ville.
Du côté des autorités compétentes, c'est le silence radio. Aucune explication n'est fournie. Pourtant, le gouvernement provincial avait amorcé il y a plus d'une année l'aménagement d'un grand parking à une dizaine de kilomètres sur la route de l'aéroport. Un projet qui, malheureusement, peine encore à se concrétiser, laissant Kisangani dans l'embouteillage. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Revenons encore une fois au Congo central avant d'aller plus loin. La coupe abusive d'arbres menace l'équilibre naturel de l'environnement. Une alerte lancée ce vendredi à Mbandangungu, au Congo central, par le président du conseil rural de cette entité à l'occasion de la célébration ce 22 mai de la Journée internationale de la biodiversité, placée sous le thème « Agir localement pour un impact global ». Il appelle à une prise de conscience collective pour préserver l'écosystème. Écoutons Victor Nzuzimbembe au micro d'Élise Kavira.
Chacun de nous, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour préserver l'environnement ? Pour préserver nos poissons et les différentes autres espèces dans les rivières, crabes, crevettes et autres serpents. Quand vous allez dans des rivières, il y a des espèces qu'on ne trouve plus, nos rivières deviennent pauvres. Qu'est-ce que nous faisons pour que dans notre forêt, qu'il puisse y avoir des chenilles, des champignons, des gibiers ? Aujourd'hui, il est difficile de manger les gibiers parce que on a détruit la forêt pour faire le charbon.
Par exemple, le mfumbwa, on le trouvait dans le forêt au niveau du secteur de Ngombemata, d'Intimansi. Mais aujourd'hui, le mfumbwa est devenu rare. Le miel, quand il y avait du bois, on avait des riches partout. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver les abeilles. Et nous savons que les abeilles nous aident dans la pollinisation, donc la production. Sinon, on utilise les pesticides. Donc voilà comment nous sommes en train de détruire notre environnement. Donc il y a une conscience environnementale qui doit renaître. Et ça doit commencer dès l'enfance. Sinon, l'État doit prendre des mesures drastiques pour que les gens respectent l'environnement.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le divorce politique est consommé. Le tandem au pouvoir depuis mars 2024 a finalement explosé ce 22 mai au soir. Le président Bassirou Diomaye Faye a limogé son premier ministre Ousmane Sonko, mettant fin à un duo qui, ces derniers mois, avait pris l'aspect d'un duel entre le président et son ancien mentor et encombrant premier ministre.
L'invité.
Le professeur Félicien Kabamba est notre invité. Il revient sur les enjeux, défis et perspectives des élections prévues en 2018 en République démocratique du Congo. Ce thème a fait l'objet d'un séminaire qui s'est clôturé mercredi dernier à Mbujima et dans les Kasaï oriental à l'initiative du Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Le professeur Félicien Kabamba s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Félicien Kabamba.
Bonjour.
Pourquoi le CRONG, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé à Mbujimaï un atelier de deux jours sur les enjeux, les défis et les perspectives des élections de 2028 en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord commencer par dire que la Fondation avait commencé par organiser le forum international sur le 20 ans de la constitution de la RDC. Et c'était un forum qui avait réuni la grande crème intellectuelle du pays. Il y avait des partis politiques, majorité opposition. Et ce forum avait un caractère international parce qu'il a connu la présence des acteurs internationaux. Au cours de ce forum, toutes les questions liées à notre constitution ont fait l'objet d'un très très grand débat. Aujourd'hui, on est en 2026 et les élections auront lieu dans 2 ans. Partant sur les discussions qui ont eu lieu sur la constitution, la fondation a envisagé d'organiser cette activité. Elle n'a pas seulement été organisée ici, elle a aussi été organisée ailleurs dans d'autres provinces. C'est pour discuter de la faisabilité des élections en 2028. Comment les partis politiques s'y préparent, tant au niveau de l'opposition que de la majorité, tant on sait qu'il y a des préalables que certains partis ont posés pour l'organisation de ces élections. C'est autour de ça que cet atelier a été organisé et évidemment, à travers des discussions qui ont eu lieu dans la salle, on se rend compte que le chemin est encore très long pour organiser les élections de 2024.
Quels sont, selon vous, les principaux enjeux qui caractérisent le processus électoral en RDC aujourd'hui sur le plan institutionnel et sur le plan politique?
Vous savez qu'on d'abord on ne crée pas les partis politiques pour balayer la rue, on crée les partis politiques pour le pouvoir, soit pour le conquérir, soit pour l'exercer. Et les élections ont également un rôle de stabilisation. Un rôle. Les élections peuvent vous apporter la paix, mais les élections peuvent aussi vous apporter une crise politique. Et donc, voilà pourquoi il faut réfléchir sur la meilleure manière de les organiser pour éviter qu'elles nous plongent dans une grande crise. Nous avons toujours eu l'habitude d'aller vers l'opposition et la majorité pour le mettre ensemble afin de créer cette discussion autour de la meilleure manière de organiser les élections. En continuant sur cette manière de faire les choses, on peut arriver à, probablement pas à mettre tout le monde d'accord sur tout, mais à pouvoir créer des créneaux de discussion entre les différents acteurs politiques.
Quels sont les défis majeurs identifiez-vous lors de cet atelier, notamment en matière de transparence, de logistique électorale, de sécurité et de confiance du public?
Alors, nous avions eu à mettre ensemble l'opposition, majorité, société civile et même la CENI, pouvoir faire le point et discuter sur ce qui n'a pas marché lors des élections passées et ça pouvait nous permettre d'envisager un avenir dans le sens de diminuer les déficits qui ont été déplorés. Et donc je crois que beaucoup de choses ont été dites dans la salle allant dans le sens d'une amélioration des élections en 2028 si les élections ont lieu. Et donc voilà, il y a eu le groupe de discussions qui ont été constitués et qui ont rendu des recommandations extrêmement intéressantes.
Quelles perspectives ou pistes de solutions ont émergé de cet atelier pour améliorer ou renforcer la gouvernance électorale et prévenir les tensions liées au scrutin futur?
Oh bon, il y a eu énormément de recommandations qui ont été faites, allant dans le sens de mettre tous les acteurs ensemble. Il faut que les acteurs soient ensemble. C'est ainsi que les uns sont allés dans le sens d'un dialogue, mais cela avec une position défendue par l'opposition, pendant que les autres parlent bien sûr de changement de la révision de la Constitution. C'est quelquefois des positions difficilement conciliables, mais il s'est dégagé là qu'il y avait quand même nécessité que les acteurs politiques se mettent ensemble pour arriver à dégager une voie de sortie. Parce que si chacun reste muré dans sa position, on n'en sortira pas. L'idée, c'était de rapprocher de position que les acteurs se parlent. Et donc, je crois qu'on a réussi à le faire, même si de temps en temps, il y a des petites tensions. Mais en fait, c'est aussi ce qui caractérise la démocratie, c'est cette discussion cordiale, cette entente entre les différentes parties, dialogue entre eux, ils se parlent, même si de temps en temps, il y a une tension dans la salle, mais on se rend compte que les acteurs sont partout.
Quelles recommandations concrètes formulez-vous à l'issue de cet atelier pour garantir les élections plus transparentes, apaisées et inclusives en RDC?
Alors, la seule chose, c'est qu'il faut aller aux élections quand on se met d'accord sur la manière dont les élections vont être organisées. Les règles de jeu, et je crois que cela est possible.
Professeur Félicien Kabamba, merci.
Je vous remercie.
C'était donc notre invité, le professeur Félicien Kabamba, qui s'entretenait avec Esther Ndalafina. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée préparé pour vous par Jean Gandou Kabongo et mis en ordre par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.